Alors, donc aujourd'hui, on va démarrer le speed sur la paracha de Béalotra. En réalité, j'avais trouvé un très beau speed, d'accord, du Sichot Moussar. Il m'a beaucoup parlé. Et en fait, en regardant dans les archives, je me suis rendu compte que c'était un speed qu'on avait fait en 2006. D'accord? Donc ça fait déjà maintenant plus de 11 ans, plus de 12 ans qu'on fait le speed. Donc en fait, c'est tombé sur le même passouk. Mais en vérité, c'est un autre Dvar Torah. Et il est tiré du Be'er HaParasha. Be'er HaParasha, c'est le Rav Eliezer Biderman, d'accord, qui fait toutes les semaines, il fait des drachot. Mais en fait, il cite un autre Rav qui s'appelle le Lechem Shebo Vahlama. Alors, je vous expliquerai qui est le Lechem Shebo Vahlama. C'est le grand-père de Rav Eliashiv. D'accord, c'est un grand Mekoubal, capitaine d'Eretz Israël. Il s'appelle Eliashiv aussi. Et il a écrit un Sefer Kabbalah qui s'appelle Lechem Shebo Vahlama. Mais notre Dvar Torah d'aujourd'hui n'a pas du tout de rapport avec la Kabbalah. D'accord? Et il se rapporte sur un des psukim de la paracha très connu. Il dit ceci, on démarre. Mais parashtan, dans notre paracha, c'est une expression parashtan, notre paracha en araméen. C'est marqué dans la Torah, Alpi Hashem Is ou Bnei Israël, Alpi Hashem Yachanu. D'accord? C'est ce fameux passage qui dit, sur la bouche d'Akadosh Baruch Hu, sur l'ordre d'Hachem, ils voyageront, Alpi Hashem Yachanu, et sur l'ordre d'Hachem, ils camperont. Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui décidait quand les Bnei Israël devaient voyager, quand les Bnei Israël devaient s'arrêter. Et donc la Torah, elle explique. Elle dit, Viyesh, Asheriya Anan, Yamim Mispar. Et il y avait, sous-entendu, des moments où le Anan, ou la colonne de nuée, elle restait Yamim Mispar quelques jours à la Mishkan, sur le Mishkan. Oui, et il y avait des moments où le Hanan partait. D'accord? Parce qu'en réalité, il ne savait jamais quand il partait, quand il s'arrêtait, combien de temps. Il dit, Alpi Hashem, Yachanu ve Alpi Hashem Issou. Et la Torah répète, sur l'ordre d'Hashem, il campait, sur l'ordre d'Hashem, il voyageait. Veyesh, il y avait d'autres moments. Asheri Hanan, mais Erevat Boker. Que le Hanan, il s'arrêtait du soir au matin. Vena'ala et Anan Baboker, et il montait le Anan le matin, Venas'u, et il voyageait. Oyomam ou bien des fois c'était un jour et une nuit. Vena'ala et Anan, Venas'u. Et là aussi il s'élevait le Anan et il voyageait. Donc des fois c'était une nuit, des fois c'était un jour ou une nuit. Oyomaim, ou des fois c'était 2 jours. Ochodesh, ou des fois c'était 1 mois. Oyamim, des jours nombreux, comme dit Rashi, c'est une année. Il ne pouvait jamais savoir, oui, comme Rashi dit Yamim Teyigé Olato. Des fois, la Torah, elle emploie l'expression Yamim pour dire une année. Et donc, et de nouveau, la Torah, elle répète, Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Issou. Sur l'ordre d'Hashem, il campait, Alpi Hashem Issou, et sur l'ordre d'Hashem, il voyageait. Et Mishmeret Hashem Shamaru, la garde d'Hachem, il gardait, c'est-à-dire il faisait attention à garder l'ordre d'Hachem. Alpi Hachem Beyad Moshe, sur l'ordre, la garde, ça veut dire qu'il gardait l'ordre d'Hachem de ne pas voyager tant qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre. Alpi Hachem Beyad Moshe, et donc ça se faisait sur l'ordre d'Hachem dans la main de Moshe Rabbeinu, puisque c'était Moshe Rabbeinu, comme dit Rashi, qui sonnait de la trompette pour signaler le moment du départ. Et donc il y avait Akadajo, Rou, Moshe Rabbeinu, les trompettes, tout un système. Donc cette description des psukim, en vérité, elle est reprise par beaucoup de commentateurs, parce que on n'a pas la conscience de ce que ça veut dire, mais en réalité, il y a un rave, il explique bien, il donne l'exemple, il dit, mais imaginons-nous, oui, vous voyagez, d'accord? Vous arrivez, ils sont sortis du désert, ils avaient quelques valises, des enfants, les carrioles, etc. Ils arrivent dans un endroit. Si vous ne savez pas quand vous partez, peut-être vous allez partir demain matin. Alors le père, il dit à ses enfants, vous savez quoi? Asseyez-vous, déballez pas tout, prenez juste les pyjamas, on ne sait pas, peut-être on va partir demain matin. Arrive demain matin, rien. Alors on dit, bon, vous savez quoi? Sortez déjà les serviettes de toilette. Bon, d'accord, on sort. Déjà demain soir, la femme a dit, bon, mais il faut qu'on cuisine, je ne veux pas rester comme ça campé. Bon, alors sort quelques casseroles, on commence à se déballer. Deuxième jour, allez, on remballe. Ah, ce matin, on vient de déballer, ils remballent, ils s'en vont. Aouder, ils repartent, ils revont comme ça. Un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, au bout de trois semaines, on s'installe, on ouvre toutes les valises, on met les armoires, on se prépare, quoi, quand on est déjà depuis trois semaines. Au bout de trois semaines qu'on s'est déjà installé, hop, on s'en va. Et ça veut dire que dans les psoukim, tu te rends compte que c'est pas que c'était un jour, une semaine, dix jours. En réalité, des fois, c'était deux mois, trois mois, six mois, un an. Un an, il partait, il s'arrête dans un endroit, donc il se dit, je vais faire des haltes de un an. Et la halte suivante, c'était deux jours. Et des fois, c'était une semaine. Il ne pouvait jamais savoir. Donc en réalité, c'est ça le pshat. C'est marqué dans le Navi, « Zahrati la chesed neuraïr, l'erter acharei bamidba ». Je me rappelle, chesed neuraïr, du chesed, de la bonté de ta jeunesse. Quand le clan d'Israël était jeune, l'erter acharei bamidba, quand tu marchais derrière moi dans le désert. Alors en général, on explique c'est quoi l'erter acharei bamidba, que tu as eu la gentillesse, l'amour que les bénis Israël avaient pour Akadosh Baruch Hu de le suivre dans le désert, c'est un endroit où il n'y avait rien à manger, etc. Ils partaient à l'aventure. Et donc, partir à l'aventure, ça c'est un signe de jeunesse. Quand on est jeune marié, on dit, bon, bah, allez, on y va, on fonce. Mais en réalité, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas seulement aller dans le désert, c'est ne pas savoir combien de temps on reste, qu'est-ce qu'on fait, où on va, où on habite. Une femme, elle supporte pas ça. Donc, à l'Israël, elle comprend pas. Où est-ce qu'on va? Si tu me dis où on habite, oui. Mais si tu es représentant de commerce, un coup là, un coup là, un coup là, c'est pas possible pour moi de m'organiser. Et quand même, les Bnei Israël, ils l'ont fait. Donc, en réalité, c'était un grand Nisayon. Ce Nisayon de Alpi Hashem, Yachanou Alpi Hashem Issou. Donc, ça, c'est le Pshat Pashut du Pasuk, que c'était Behemet, un Nisayon. Et pendant 40 ans, ils ont jamais pu savoir combien de temps, où ils allaient, enfin, ils savaient qu'ils allaient en Eretz Israël, mais comme ils tournaient en rond, donc ils n'avaient jamais la direction, combien de temps ils restaient, combien de temps ils partaient. Et ça, 40 ans de Nisayon. Ok ? Ils savaient ou pas ? Mais Moshe Rabbeinu, il ne savait pas.
Quand il sonnait les trompettes, il ne savait pas comment il
partait. Non, Moshe Rabbeinu, non, il sonnait les trompettes quand il voyait le Hanan s'élever. Parce qu'en réalité, le Hanan, il s'étalait sur eux pour les protéger. Et quand il y avait le matin du départ, trac, le Hanan se remettait en colonne et partait devant. Moshe Rabbeinu, il comprenait que c'était le moment de sonner le départ. Donc il sonnait.
Vous pouvez voir ça.
Comment? Non, tout le monde. Mais c'était Moshe Rabbeinu qui avait la direction des trompettes. C'est la suite de la paracha. Aselecha, shtecha, tzotzot. Fais-toi deux trompettes. Tout le monde voyait le Hanan. Mais il fallait le Hanan plus les trompettes. D'accord? Il fallait du temps pour 600 000 personnes. Il y a 3 millions de personnes pour se mettre en branle. Il faut un petit moment, quoi. Ils avaient des valises, ils avaient des affaires, ils avaient des enfants. Tu ne peux pas partir comme ça à la minute. Okay?
Mais cette situation, c'est une punition. Il faut la comprendre comme une punition, non?
Non, 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 non. Pourquoi une punition?
Vous allez errer dans le désert.
Non, errer dans le désert, c'est la punition avec les Meraglim. Mais en réalité, ça, c'est depuis le départ que les Bnei Israël devaient voyager comme ça. Oui, même s'ils avaient fait que deux jours, trois jours.
Comme ça, d'une façon un peu biscornie.
Ça, c'est pas dans la punition des Meraglim. Ça, c'est dans la manière dont ils devaient voyager dans le désert. Même, parce que dans le désert, en réalité, ils ne devaient pas voyager en une minute. Ils ont passé trois jours pour sortir, etc. Ils avaient quelques jours, ils avaient un petit moment. C'était pas à la seconde qu'ils devaient revenir en Eretz Israël.
Une fois, c'est deux jours, une fois, c'est trois semaines.
C'est un Nisayon pour voir s'ils allaient suivre Akadosh Baruch Hu les yeux fermés. Ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu, on fait Alpi Hashem Issou, Alpi Hashem Yechanou. Selon l'ordre d'Hashem, ils voyageaient. En réalité.
En fait, c'est des villes spécifiques où il y avait des choses qui s'étaient produites. Ils allaient dans ces lieux-là, non?
Non, ça, non. Il y avait des lieux, tu as raison. Mais il n'y a rien qui s'est. A priori, il n'y a rien qui s'était produit, puisque c'était des oasis. Ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de ville. Alors, il y a des noms. La Torah leur donne des noms aux étapes, d'accord? Il y a les 42 étapes du désert, mais c'est des endroits inconnus. Al-Mondi, Blataima, Rissa, Makelata. C'est des noms, c'est le désert, hein? Il n'y a rien là-bas dedans. Il n'y a pas des lieux, etc. Mais en réalité, le Dvar Torah, donc on avait fait il y a très longtemps, il disait ceci, c'était un Dvar Torah de Rav Chaim Shmulevitch. Donc je ne vous refais pas tout. Mais il dit que ça veut dire Alpi Hashem Issou, Alpi Hashem Yachanou. Il dit, si tu prends par exemple un jeune couple, d'accord, qui se balade comme ça, il s'arrête là. Alors tu demandes à la femme, où vous êtes? Elle dit, je suis à Montluçon, je suis à Montélimar, et je suis là. Elle te dit toutes les étapes, d'accord, jusqu'à que ça la saoule. Mais si par exemple cette femme-là, elle a un petit bébé qu'elle porte, tu demandes au bébé ou tu demandes au petit enfant, tu dis où tu es? Il ne connaît pas ni Montluçon, ni rien du tout. Il dit où tu es? Ben, je suis avec ma mère, quoi, je suis avec mes parents. Mais où vous êtes? Je ne sais pas, je suis mes parents. Mais ça ne l'intéresse pas de savoir les étapes. Alors il dit à Frank Shmovitch, c'est la même chose. Alpi Hashem Issou, Alpi Hashem Yachanou, quand quelqu'un il sent qu'il est dans les bras d'Hashem, que c'est Akadosh Baruch Hu, il dit qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis là ou là, de toute manière, je suis, c'est Akadosh Baruch Hu qui me déplace d'un endroit à l'autre. C'est ça le sens de Alpi Hashem Issou, Alpi Hashem Yachanou. C'est ça qu'il dit Rav Chaim Shmulevitch. Mais aujourd'hui, on va regarder autre chose. Niflaim Ema. Donc 2, 4, 6, 7e ligne. Niflaim Ema, elles sont merveilleuses. Divré les paroles à l'Echem Shebo Ve'achlama. De ce Rav Eliashiv qui a écrit l'Echem Shebo Ve'achlama. Alors c'est quoi ce... C'est un drôle de nom pour un titre de livre. Qui sait ce que ça veut dire l'Echem Shebo Ve'achlama? C'est quoi ça? Non, les Shem Shebo Vachlama, c'est... Non, ouais, non, non, Shebo, non, non, c'est des noms de, des pierres précieuses qu'il y avait dans le pectoral. Les Shem Shebo Vachlama, vous savez, il y a 12 pierres précieuses avec des rangées de 3. Et donc, les Shem Shebo Vachlama, c'est une rangée de pierres précieuses du pectoral. D'accord? Il dit ceci. Shamati le Akshot. Donc, le Rav Eliashiv, il dit, j'ai entendu questionner Beshem Moreno Arav Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, Beno, le fils, Shel Moreno Arav Rabbi Chaim et Volojin, le fils de Rav Chaim de Volojin. Oui, alors Behashgacha, hein, aujourd'hui, c'est le Yartzaï de Rav Chaim de Volojin. Vous savez que Rav Chaim de Volojin, c'est le grand élève du Gaon de Vilna, et c'est lui qui a écrit le fameux Nefesh HaChaim. Oui, Nefesh HaChaim, c'est les fondements de la pensée. La pensée, la suite du Gaon de Vilna, c'est-à-dire que c'était en parallèle avec la Chassidoute. Et donc son fils s'appelait Rabbi Yitzhak, le Rav Chaim de Volojin s'appelait Rav Chaim ben Yitzhak. Il a appelé aussi son fils Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a demandé? Shelchaora nir'e, il a dit a priori, il semble, kemo shiyeshkan arichut dvarim, il y a ici un allongement des paroles, le lot sourire sans intérêt. C'est-à-dire même si on va dire que ça nous montre l'amour de Bnei Israël pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est quand même difficile de dire, et un jour, et deux jours, et trois jours, et une semaine, et un mois, bon, ça va, on a compris. Kilo yadanu, on ne sait pas, maratzta Torah, ce qu'elle voulait la Torah, le Hashmiyanu basé, nous faire entendre par là. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire la Torah, à part le fait qu'il suivait Akadosh Baruch Hu, les yeux fermés? On me va, il explique, Rabbi Yitzhak, un grand chidouche, qui a mitbar ou makom mishkana yetzer ve'atuma. En réalité, le désert, c'est le lieu de résidence du yetzer, des passions, ve'atuma et de l'impureté. Un endroit où il n'y a rien, où il n'y a pas de vie, en réalité, le yetzer, symboliquement, et plus que symboliquement, même pratiquement, c'est un lieu de yetzerara et d'impureté. Ve'chol matarat, et tout le but, Alichat de la marche Bnei Israël Sham, des Bnei Israël dans le désert, c'était quoi? C'était pas seulement de les éprouver et de voir leur attachement à Hashem, mais c'était également Aïta, Kedeshitaru et Aolam, afin qu'ils purifient le monde. Ça veut dire qu'en réalité, chacune de leurs étapes, et c'est ça quand on dit Erev Pessah, on lit la Sgula de Rabbi Shimshon Mostropolia sur les 42 étapes du désert. Aussi, enfin, on les le Zohar. La Zgoulat Rabbi Shimshon, c'est sur les Malachim qui ont protégé Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Mais après, on lit les 42 étapes. Et il dit pourquoi les Bnei Israël ont fait 42 étapes? Kedeshi Tao et Taolam. Pour qu'ils purifient le monde. Ou Beit Gabroutam. Et en se renforçant à la Yetzer, sur le Yetzer, à chacune des étapes. Ils annulaient à chaque fois la Touma et le Satan, Zayetzera, Kiyetzera. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, on ne comprend pas ce qui s'est passé véritablement dans le désert. En réalité, chaque fois qu'il faisait une étape et qu'il restait dans un endroit, oui, il faisait une Avodat Hashem dans cet endroit-là, ils annulaient un Yetzera particulier. Comme s'il y avait 42 formes de Yetzera. Alors, je ne sais pas quel type de Yetzera ils annulaient. Il y a le Yetzera de Arayot, le Yetzera de l'iPhone, le Yetzera de l'argent. Il y a un million de formes de Yetzera. Mais chaque fois, ils luttaient contre un Yetzera. Et c'est pour cette raison qu'ils sont passés tellement de temps dans le désert.
Quel Avodah Hashem ils faisaient? Ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Quel Avodah ils pouvaient faire?
Si, ils ont reçu la Torah pendant les 40 ans. Les étapes, la première année, au bout d'un mois, ils ont reçu la Torah. Enfin, ils sont sortis la Torah en Nissan. Voilà. 49 jours, ils ont déjà reçu la Torah. Ok? Veine. Oui. Et en réalité, c'est la question que tu as demandé déjà tout à l'heure. C'est qu'ils sont sortis d'Égypte. Oui. Ils ont passé 49 jours dans le désert, jusqu'à Shavuot, jusqu'à Matan Torah. Ok ? Mais on n'est pas encore à l'épisode des explorateurs. Donc ils devaient rester pour recevoir la Torah. Mais ok ?
On n'est pas dans ce processus non plus.
On n'est pas encore là.
Non, mais même pas dans les déplacements, dans les 49 jours.
Non, on n'est pas encore, puisque quand ils sont arrivés au Sinaï. Exactement, on est juste avant. Veiné, et voici. L'okolam komot chavin, c'est pas tous les endroits qui étaient égaux. C'est-à-dire que tous les yetzarim ne sont pas les mêmes, il y a des puissances du yetzer. Qui yesh me komot, il y a des endroits bamidbar, tmeim yoter, qui sont plus impurs que d'autres. Oui, dans le monde, il y a des endroits où il y a plus de touma que d'autres.
David, on a du mal à comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre. Dans le désert, il y a de la touma, il y a des terrara.
Non, c'est
abstrait.
C'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, il y a des tsarim. Tu as raison, c'est abstrait. Mais en réalité, le désert, c'est un endroit où il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de gdoucha, il n'y a pas de sainteté.
Est-ce que ça peut pas être ça? C'est vrai, quand tu es dans le désert, on entend comme ça, tu as aussi un sentiment de grande liberté. Alors c'est peut-être ça le Touma ou le Yetzer qu'on peut avoir. Ce sentiment de grande liberté. C'est vrai, quand tu es dans le désert, tu as un sentiment comme ça de.
Non, mais je sais pas pourquoi.
De liberté, de. Je sais pas.
T'as... Mais c'est pourquoi ça serait une Touma, la liberté. Au contraire. Pourquoi? Parce que, au contraire, tu peux te dire, il n'y a rien qui va t'attirer.
Exactement, oui.
Tout est possible, c'est.
Oui, tu as raison, mais il n'y a rien à faire, quoi. Tout est possible. S'il n'y a rien à faire, si quand tu es à Las Vegas, tu te dis oui, tout est possible. Mais si tu es dans le désert, il n'y a pas grand chose de possible. Hein. Je comprends ce que tu dis.
Las Vegas, c'est dans le désert.
Oui, Las Vegas, dans le désert. Non, ce que je pense, c'est dire que quand c'est un lieu sans vie. Et un lieu sans vie, ça veut dire que tu as l'impression d'être abandonné. C'est cette idée d'abandon qui est une, où c'est là. Tu peux te dire ça, c'est le Yetzera, c'est la Touma. Alors bon, peut-être ça rejoint ce qu'il dit Albert, c'est-à-dire que t'es abandonné, tu sens pas la gdoucha, tu sens pas la présence d'Hachem quand il y a des arbres, des fleurs, tu sens qu'il y a une vitalité là-dedans. Mais quand il y a rien, alors tu te dis on est abandonné, alors je crois qu'il nous a lâché là-dedans dans le désert. Que Hachem il te lâche, oui, c'est ça la plus grande touma. Alors peut-être ça rejoint ce qu'il dit Albert, qu'on est livré à nous-mêmes. Tu vois? On a l'impression qu'on est abandonné à nous-mêmes. Alors il dit, le fait dans le désert, yesh mekomot bamidbar tmeim yoter, v'yesh tmein pachut, et il y a des endroits qui sont moins impurs. Ulfi godel atuma, et selon la grandeur de l'impureté, ken erich lahem akadosh baruch hu, c'est ainsi qu'il a rallongé, erich, c'est-à-dire il a rallongé akadosh baruch hu, shautam, leur résidence, b'otom makom. C'est-à-dire qu'en réalité, Nous, on a l'impression, tout à l'heure, on a dit qu'à 14 jours, il est test. Là, on reste 2 jours, là, on reste 3 jours, mais on a l'impression qu'il fait mumuse, quoi. C'est un peu là. Ah, allez, aujourd'hui, on reste 2 jours. Et demain, 2 mois. Et après, 1 jour. C'est bon, ça va. C'est cruel, en réalité, de faire ça. C'est vrai que c'est bien pour les éprouver. Mais tu fais ça une fois, deux fois. Tu fais pas ça pendant 40 ans. Tu vas les rendre fous. Alors, il dit qu'en réalité, qu'à 14 jours, il a un plan. Et ce plan-là, c'est un plan de purification du désert, qui est en réalité une maquette en miniature du Yetzirah dans le monde. Et donc en réalité, quand il restait longtemps, c'est qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Et quand il restait peu longtemps, c'est qu'il y avait peu de travail de purification. Qui auto-shiur touma, car comme la mesure d'impureté, ken arach lahem yoter atahara, ainsi se prolongeait la purification. Tikkun ushbirat ha-yetzer, La réparation et la lutte contre le Yetzer chez l'automacom de cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, on ne sait pas quelle est la puissance du Yetzer qu'il y a dans un endroit ou pas dans un autre endroit. En vérité, cette puissance, elle peut être liée à des averot qui ont été faits dans cet endroit, ou bichlal, à la résidence du Yetzer dans cet endroit. C'est pour ça que des fois, tu arrives dans un endroit et tu as des mauvaises pensées, ou tu as des envies de faire des bêtises, ou d'autres endroits où tu sens de la gdoucha. Parce qu'en réalité, le lieu, il est chargé ou non de gdoucha ou de touma. Et donc, dans le désert, en réalité, c'était une préfiguration de la touma et de la tara dans le monde. Il dit, mamshicha l'eshem. Il poursuit le Lechem. Donc bon, c'est vrai que je vous ai dit que ce n'est pas de la Kabbalah, mais disons que c'est quand même un peu ésotérique comme vision. Mamshicha Lechem. Il poursuit le Lechem, Zel Shono. Kacher Ba'u Bnei Israël. Quand ils sont arrivés, les Bnei Israël, l'imkomot allelu dans ces endroits-là, Aya caché la M Meod. C'était très dur pour eux. Chez la deuxième colonne. Vayumar Gishim Techef. Et ils ressentaient rapidement Rocher Vetzal Mavet. L'obscurité. Et Tzal Mavet, ça veut dire l'ombre de la mort, c'est une expression. Et la noirceur. Vechol Mine Tzarum Tsuka. Et toutes les sortes de souffrances, mitzarat ayetzer, des oppressions du yetzer. C'est-à-dire que quand les Bnei Israël étaient très élevés, très raffinés, et dès qu'ils arrivaient dans un endroit où il y avait la Touma, ils sentaient, ils voulaient partir. Ve'ayunoflim mimadregatam arbe, et ils tombaient de madrega. Ils avaient l'impression d'avoir une chute dans leur niveau spirituel. Obevadai, c'est sûr, shayurotzim livroach misham. Ils voulaient se sauver de là-bas, qui broach me Hachem quand on se sauve, comme quelqu'un qui se sauve du feu. C'est-à-dire qu'en réalité, les Bnei Israël ressentaient véritablement quelle était la Touma ou quelle était la Kdusha dans l'endroit. Et quand ils arrivaient dans un endroit très tamé, ils voulaient vite partir. Les Hidach, à l'inverse, Kacher nit akvusham, quand ils étaient attardés là-bas, betiaru et amakom, et qu'ils avaient purifié l'endroit, ayurotseim leishaersham, eux ils voulaient rester. C'est-à-dire qu'en réalité, le mouvement des Bnei Israël, il était inverse de celui d'Akadosh Baruch Hu. Quand les Bnei Israël, ils arrivaient dans un endroit très tamé, eux, ils voulaient partir, Akadosh Baruch Hu leur dit, non, reste là, tu as une avouda à faire. Et quand c'était tout propre, qu'ils avaient bien arrangé les armoires, ils avaient arrangé les valises, entre guillemets, ils disaient, c'est bon, on reste là. Akadosh Baruch Hu leur dit, allez, on s'en va. C'est-à-dire, l'avouda, elle est faite. La Zéhamara Katouv, c'est pour ça que le verset, il a dit, Alpi Hashem Yachanu ve'Alpi Hashem Yisou. Sur l'ordre d'Hachem, ils campaient, et sur l'ordre d'Hachem, ils voyageaient. C'est-à-dire, chez lui, ils staklou à l'atzma meouma. En réalité, ils regardaient jamais sur eux-mêmes, jamais rien. Et là, chez eux aussi, mretzon Hachem, ils faisaient la volonté d'Hachem, en bachani atam, que ce soit dans leur campement, c'est-à-dire quand ils devaient rester dans un endroit contre leur gré, ven binsi atam, ou que ce soit dans leur voyage, quand ils devaient partir dans un endroit où ils étaient bien. Et en réalité, ici, ça préfigure toute la vie d'un Ben Israël. Qu'en réalité, un Ben Israël, lui, quand on est des fois dans des situations, on est bien, tout va bien, Baruch Hashem, la situation est bien, on voudrait rester dans une situation, et que j'aurais dit, hop, il te change la situation. Mais c'était tellement bien, tout était organisé, j'avais les shiurim, j'avais la parnassa, j'avais ci et ça, et tout d'un coup, tout se transforme. Ou bien à l'inverse, on est dans une situation qui est une situation difficile, une situation de tsara, et on voudrait bien en sortir. Et la situation, elle reste, elle perdure. Alors il dit en réalité qu'il y a une avoda à faire. Tant qu'une situation, elle est comme ça et elle bouge pas, c'est qu'il y a un travail à faire. Et tant que le travail il est pas fait, la situation elle bougera pas. Et le jour où la avoda elle sera faite, c'est-à-dire que tu auras nettoyé la situation, tu auras nettoyé le lieu, alors qu'à un jour où il changera la situation. C'est-à-dire, nous, on pense qu'en changeant de lieu, on va changer les choses. Non. Si Bémet, à Kadosh Baruch Hu, il te laisse dans un endroit ou il te laisse dans une situation.
On le dit pourtant, ça a changé de lieu.
Oui, c'est vrai. Mais on peut pas, c'est pas toujours possible de le faire. Des fois, on veut changer de lieu et tu t'aperçois que tu n'arrives pas. Ou changer de situation et tu t'aperçois que tu n'arrives pas. Par exemple, tu es dans une situation, s'il y a une situation particulière dans la vie, oui. On aimerait que la situation change, on voit que la situation, on n'arrive pas à sortir de ce problème-là. Et dès que tu avances, tac, et ça te ramène à la situation. C'est que Béhémet, il y a une avoda à faire dans cette situation. Tu comprends? Mais Zéou Omro, c'est ça qu'il a dit, ou Béhari Kheranan, quand la colonne de nuit, elle s'allongeait, ça veut dire que parfois, oui, la colonne de nuit, elle s'allonge, elle t'empêche de bouger. Elle te laisse dans une situation de laquelle tu voudrais t'échapper et la nuit, elle ne bouge pas. Tu as l'impression de faire du surplace. Oui. Kelomar, chez Makomazé, ça veut dire que cet endroit-là, chez Utsrahu le Harir, qu'ils ont été obligés d'allonger Shaoutambo, leur résidence, la parenthèse, Aïta Tumato Noraa, il y avait une grande Touma où il y avait une grande Avoda. Et c'était très dur pour eux, les Dgaber Shamalitzram, de se renforcer sur les Yetzer. Alken Ayurotzim Livroach Misham. Ils voulaient se sauver de là-bas. Im Kolze. Avec tout ça, les Bnei Israël, ils ont eu cette clairvoyance de ne pas vouloir fuir une situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu les avait mis. Veshamru bnei Israël et mishmeret Hashem velo isru. C'est ça ce pasuk. Tout à l'heure, on avait un peu de mal à traduire. Il disait, ils gardaient, les bnei Israël, la garde d'Hashem. Ça veut dire, ils gardaient l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu leur avait demandé de garder. Akadosh Baruch Hu leur a dit, c'est là que tu dois être. Ça veut dire, avec cette famille, avec cette situation, avec ces soucis-là, d'accord? C'est-à-dire, il y a un travail à faire. Si je t'emmène une situation difficile, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Tant que le travail n'est pas fait, la situation, elle ne bougera pas. Véloïs, oui, but, et il ne voyageait pas. Véchen, Véyesh, Asher, Yanan, Merevat, Boker. Il y avait parfois que la colonne de nuée, elle était du soir au matin. Mishum, Shelo, Ayasham, Makom, Mezuham, Kolkar. Parce que l'endroit, il n'était pas tellement Mezuham, pollué, Mezuham. Vayurotsem, Lita, Kepcham. Et il voulait rester là-bas. Im Kolze, malgré tout, Venaala et Anan Baboker, la colonne de nuée, elle partait le matin, Venasaou, et il voyageait. Ça, c'est un peu, ça vous rappelle l'histoire de Yaakov, que Yaakov, il dit ça, et maintenant, je vais souffler. Oui, et Rachid dit, alors je lui dis, qu'est-ce que tu vas souffler? Non, la vie d'un homme, c'est pas fait pour souffler. Toi, tu dis maintenant, je vais profiter. Toi, on pense tous, oui, on va arriver à la retraite, on va s'éclater, on va faire. Et en réalité, dès qu'on arrive à la retraite, commence des soucis. Il y a les enfants, les parents, la santé, le ciel et ça. Et tous les plans qu'on avait faits, en réalité, on se dit, mais attends, finalement, c'était mieux quand j'étais à Grenoble. Maintenant, je suis parti ailleurs, j'ai à droite, à gauche, et j'ai une autre avouda. Oui? Ou medaber akatuv, et en réalité, il parle le verset Bishvachan zel Israël, de la louange d'Israël. Chez Misu alatzma, ils ont mis sur eux, kol atore arve amalazé, toute cette fatigue-là. Ils ont accepté finalement cette avodala, kedela kouf et titzra, pour faire plier leur yetzer, ou le kopcho, et le vaincre, bechol aefchar, dans tout le possible. Ça veut dire que c'était 40 ans d'avoda. Et ces 40 ans d'avoda, en réalité, ils nous les ont livrés à nous. C'est-à-dire que non seulement ils ont réduit le Yetzer dans tous ces endroits qui sont des endroits symboliques et qu'ils ont fait une avoda là-dessus, mais ils nous ont appris aussi à nous, à nous faire à une situation et à ne pas penser que finalement, c'est en changeant de situation qu'on va changer notre ressenti. Non, en faisant l'avoda dans la situation où on est, Bémet, c'est là où Akadosh Baruch Hu va dire « Allez, c'est bon, vous avez nettoyé l'endroit, on y va ». Ve'agam shaya kashel ha'em me'od, et bien que c'était très dur, im kol ze'et mishmeret Hashem shamaru. Ils ont gardé cette fonction qu'Akadosh Baruch Hu leur avait donnée. Ve'ze limud gadol la'adam, et c'est un grand enseignement pour l'homme, ça veut dire que celui qui n'est pas dans le zer pour nous, le kabel alav din shamaim, d'accepter le jugement d'Hashem. Bema shenisva valav sibot shonot, dans ce qu'il a fait tourner autour de lui, Nisva Balav, Sibot Shonot, différentes situations, Kama Peamim, de nombreuses fois dans la vie, Asher Aliedeze, Nofel Be Madrigato Bechear, qu'à cause de ça, il va tomber de Madriga. Ça veut dire qu'on est bien, tout va bien, la femme ça va, les enfants ça va, le travail ça va, et je peux aller en année, je suis content, tout est organisé. Alors Hachem, j'aimerais bien que les choses soient comme ça. Bouge pas Hachem, ne bouge rien d'un poil, tout fonctionne. Et tout d'un coup, tac, on a un truc, ou de la santé, ou la parnassa, ou les impôts, on est rattrapé par autre chose, on dit, mais enfin, on était tellement bien ici, pourquoi tu nous fais voyager? Pourquoi tu nous fais explorer une autre situation? Alors, il dit, il n'y a pas de problème, j'ai vu que tu as bien utilisé cette situation de tranquillité, c'est bon. J'ai vu que tu fais avodat Hashem dans une situation de tranquillité. Maintenant, on va explorer une autre étape. Comment tu vas faire avodat Hashem avec un problème de santé? C'est bon, c'est réglé, c'est très bien. Maintenant, avec une situation de parnassa, maintenant avec les enfants, maintenant avec les parents. C'est-à-dire, on explore des situations. Et ben, c'est ça l'avodat d'Ebné Israël, c'est ça qu'ils nous ont légué. On ne doit pas se rebeller, même si effectivement, on a l'impression de jamais s'en sortir. Quand on a fini l'éducation des enfants, alors après, ça veut dire que c'est les parents, et après, c'est les enfants qui grandissent, après, c'est les petits-enfants, et après, c'est notre propre santé, après, c'est le conjoint, après, ça n'a pas de fin, cette affaire-là. Alors, il te dit, il y a 42 étapes. Les Bnei Israël, ils ont fait 42 étapes dans le désert. Il y a des étapes rapides, des étapes courtes. Et un homme, il a des étapes, et chaque étape, c'est une avoda. Il doit pas, on doit pas, en fait, ni vouloir brûler les étapes, ni vouloir ni vouloir se rebeller contre elle en disant mais c'est pas juste à Akadosh Baruch Hu, c'était tout allait bien. Qu'est-ce que tu mets maintenant un problème de santé? Je peux tellement faire avodat Hashem sans ça. D'accord, la parnasse allait bien, on arrive tout bien, et hop, j'ai quelque chose de nouveau. Et il dit que bien qu'on a l'impression, Asher Alié Dezenofel mi Madrigato Berchar, qu'on a l'impression de tomber de Madriga, qu'on a l'impression que ce souci, il te fait diminuer par rapport au niveau où tu étais. Tu peux moins l'ernant, tu as moins la tête pour l'ernant. Beyesh lo nisyonot gdolim, et il a des grandes épreuves, mikfiat à Yetzer, à annuler le Yetzer, tout type de Yetzer. Qui kolze ou me avoda, mutelet à l'Adam, tout ça c'est la avoda qui repose sur l'homme. Peamim beofanze, parfois de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a une avodat Hashem à faire dans la tranquillité, et ça, ça dure un jour ou deux. Ou permis bofanze, parfois d'une autre manière, avec un souci. C'est pas forcé. Des fois, la tranquillité, elle peut durer longtemps. Parce qu'en réalité, il y a une grande avodat Hashem dans la tranquillité. C'est-à-dire que servir Hashem à la retraite, c'est pas facile. Tout le monde pense qu'à la retraite, ça va être la belle vie. Au contraire, on n'a rien à faire, on dort, on fait des siestes, on tourne en rond. Et des fois, on lerne moins à la retraite que quand on était au travail. Souvent, pendant les vacances, on lerne bien moins que pendant l'année. Pendant l'année, on a la kviout. Il dit, on sait pas le ofanazé. Permim betzahar, permim berevar. Parfois, la avodat Hashem, elle est dans la difficulté, ou permim berevar. Et parfois, elle est dans la tranquillité. C'est-à-dire que nous, on pense, par exemple, quelqu'un, il avait décidé de l'ernan, ouais. Il avait décidé, et tout d'un coup, il a plein de difficultés. Alors, il dit, ah, mince alors, je peux rien faire. Non! Parce que la difficulté qui lui est imposée, qui ne lui permet maintenant de l'ernan que 10 minutes, ces 10 minutes, elles ont parfois beaucoup plus de valeur que quand il y en a 4 heures en tranquillité. Nous, on ne peut pas jauger la valeur de la avoda qu'on fait. Oui. Ve'al zenemar be Kohelet, et c'est là-dessus que Shlomo HaMelech, il a dit dans Kohelet, Beyom tova eye betov. Le jour bon soit dans le bien. Ça veut dire profite de ce bien pour remercier Hachem. Ve'rotzelomar lishmor et ota et kebabat enecha. De garder ce moment-là comme la prunelle de tes yeux. Ou Beyom ra'a. Et le jour du mal, regarde. Ça veut dire quoi? Les trazek atzmo, c'est quoi? Regarde. Fais attention de te renforcer de chol haefshari dans tout le possible. Ça veut dire qu'il y a une avoda à faire dans les jours bons de la vie et il y a une avoda à faire dans les jours moins bons de la vie. Et ils disent les mefarshim, c'est marqué dans le midrash. Il y a un midrash sur la parasha. Kadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, regarde, quand c'est marqué Ré, le jour du mal, regarde. Il dit, regarde, c'est quoi, regarde? Il dit, dans l'œil, on a le blanc et on a la prunelle. Il y a la couleur et après il y a le noir. Par où on voit? On voit par le noir. C'est par l'endroit noir qu'on voit. Ils disent, comme ça il dit le Midrash, regarde, qui m'a nacharor à taroué. C'est par le noir que tu vois. Alors les Farjim disent, ça veut dire quoi par le noir que tu vois? Que parfois, dans les périodes difficiles de la vie ou les périodes où c'est noir, c'est là où on voit la présence d'Hachem. Quand tout va bien, des fois c'est plus difficile. Bien sûr, pour nous, ça nous paraît tellement bien. Tout va bien, Baruch Hashem, la femme, les enfants, la paranasa, tout est nickel. On a l'impression qu'on est proche d'Hachem. Mais parfois, c'est pas vrai. C'est par le noir qu'on arrive à voir. C'est par la prunelle noire qu'on voit qu'on est dans la difficulté, qu'on arrive à servir Hachem et qu'Hachem ne nous a pas abandonné dans cette situation. Eh bien, c'est là où on arrive parfois à une grande proximité avec Hachem. En tout cas, c'est ça le sens de toutes les étapes du désert. En plus de ce qu'on avait dit, comme il dit Rav Chaim Shmulevitch, que pour eux, ils sentaient pas les choses. C'est une autre voie d'approche. Il explique qu'il ne sentait pas les choses parce qu'il était comme le bébé dans les bras de sa mère, que lui, il a l'impression de jamais voyager, il est toujours dans les bras de sa mère. Mais ici, l'Hachem, il explique qu'en réalité, c'était une grande avoda qu'ils avaient de faire, de comprendre que, quelle que soit la situation, même si on est dans une situation où on a un grand tsar, où on a un grand yetzer, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous laisse longtemps là-dedans, c'est qu'en réalité, il y a une avoda à faire dans ce lieu, dans cette situation. Et que parfois, les situations bonnes de la vie, elles sont beaucoup plus rapides que les situations moins bonnes, parce qu'il y a une plus grande avoda à faire là-dedans. Chabes.
La dernière phrase. Au Yomra Ré.
J'ai transféré un.
Quoi?